RTL. Archives secrètes du Quai d'Orsay.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler du 13 août 1961, quand Berlin s'est retrouvé séparé en deux. Il faut remonter à la victoire alliée sur le nazisme. Comme le reste du pays, la capitale du Reich a été divisée en quatre zones. Trois occupées par les puissances occidentales, Grande-Bretagne, États-Unis et France. L'Union soviétique de Staline tenant quant à elle la partie orientale qui englobe le centre historique de la ville fondée au XIIIe siècle. Churchill a déjà trouvé la formule qui correspond à ce nouvel état des lieux européens. C'est devant les étudiants de Fulton, Missouri, qu'il a prononcé le 5 mars 1946, un discours prophétique.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
Oui, un rideau de fer s'est bien abattu sur le continent. Le vieux lion, qui n'est plus Premier ministre, s'inquiète du sort des populations. Désormais sous le joug communiste, il a raison, car deux ans plus tard, l'URSS décide d'asphyxier la cité berlinoise. Tous les accès terrestres reliant la ville sont coupés. L'Amérique et la Grande-Bretagne réagissent aussitôt et organisent Die Berliner Luftbrücke, un pont aérien ininterrompu pendant 322 jours. Staline s'avoue vaincu, élève le blocus, mais désormais on parlera de deux Allemagnes, la République fédérale, qui choisi Bonn pour capitale, et la République démocratique. La RDA, Walter Ulbricht en est à Berlin, son président du Conseil d'État. Le 15 juin 61, lors d'une conférence de presse, on l'interroge sur la possibilité d'y voir ériger un mur. Personne n'a l'intention de construire un mur, affirme-t-il. Mais en fait, c'est un mensonge éhonté. Le leader à la barbe en pointe est le premier à hurler contre l'impressionnant flux de Berlinois qui passe d'est en ouest, comme l'expliquera quelques années plus tard sur Radio Luxembourg, devenu RTL, Georges Pinchenier, l'un des meilleurs spécialistes de politique étrangère.
L'hémorragie avait pris des proportions inouïes. En 1961, dans les semaines qui ont précédé l'érection du mur, on comptait par jour une moyenne de 1500 à 2000 personnes qui passaient de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Pour le régime communiste, naturellement, c'était une catastrophe.
Ayant obtenu l'aval du nouveau maître du Kremlin, Nikita Khrouchtchev, Ulbricht lance l'opération Muraille de Chine. 40 000 soldats en armes débarquent de leurs camions et se positionnent dans la nuit. Au même instant, les premières unités de spécialistes commencent à empiler et cimenter des parpaings percés de tiges d'acier et surmontés de barbelés. Christian Brincourt, grand reporter au 22 rue Bayard, arrivé dans l'après-midi du 13 août, intervient à l'antenne.
Devant moi, à moins de 50 mètres, les gardes populaires de l'Allemagne de l'Est en uniforme vert sont là, casqués, bottés, armés jusqu'aux dents. Sur le grand monument de la porte de Brandebourg, des sentinelles ont été placées avec des armes et ils nous surveillent actuellement à la jumelle. Tout à l'heure, j'ai essayé de pénétrer en Allemagne orientale, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est. Mais aussitôt, les Volpo, les gardes nationales populaires, se sont avancés vers moi, la mitraillette sur le ventre, et un camion-citerne a braqué sa lance dans ma direction et j'ai été copieusement arrosé.
Le lendemain, le 14, Serge Arnaud de Gniveau, chef de la division politique du gouvernement militaire français de Berlin, précise que s'il reste encore 13 points de passage ouverts, les travaux d'obstruction se poursuivent, d'épais murs de maçonnerie sont construits et des fossés creusés, des rails des voies ferrées sur les lignes S-Bahn de Potsdam et Oranienburg ont été enlevés et de nombreuses gares sont fermées. Voilà, la guerre des haut-parleurs des deux côtés de la nouvelle frontière va commencer. Il faut intimider ceux qui tentent d'arracher des briques. À l'appel au chemin vers la liberté répond la menace d'ouvrir le feu. Kennedy, Macmillan, De Gaulle se retrouvent ainsi devant le fait accompli. Ils ont beau dénoncer le coup de force, aucune intervention militaire ne sera programmée et un message classé très secret adressé par le Quai d'Orsay à Washington fera même référence à un nouveau Munich. Au moins 250 personnes paieront de leur vie leur tentative de franchir le mur de la honte. Il faudra attendre la glasnost, la transparence chère à Gorbatchev pour qu'il s'ouvre et s'écroule définitivement le 9 novembre 1989.
Les archives secrètes du Quai d'Orsay
avec les éditions Iconoclaste.